Et donc, Paul, tu es architecte urbaniste, tu as vécu à Bruxelles et tu vis encore à Bruxelles, mais tu n'as pas vécu que là, si j'ai bien compris.
J'ai vécu essentiellement à Bruxelles, soyons clairs, mais mon métier, ça a été, sur les 4 dernières décennies, j'ai quand même un certain âge, c'était de voyager dans les villes européennes. C'était de découvrir qu'est-ce qui se passe dans les politiques des villes qu'on met souvent sur le podium, hein, Barcelone, Copenhague, j'ai habité un certain temps, voilà.
À Copenhague ?
Oui, aussi, quelques mois. Enfin, des choses comme ça, je veux dire, j'ai beaucoup voyagé en Allemagne, aux Pays-Bas. J'ai pas mal travaillé en France, une 15aine d'années. Donc, je veux dire, ça me donne un peu un horizon de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les villes. Mm-hmm. Et la question de la mobilité est un des points d'entrée, c'est évident, c'est pas le seul. Et on travaille depuis un certain nombre d'années, depuis 4 ans maintenant, au sein d'un think tank, une espèce de cercle de réflexion des urbanistes qui s'appelle For Urban Passion. Donc, hein, c'est déjà un programme en soi, évidemment, hein, autour de la question prospective, des questions prospectives. Donc, pas l'analyse, qu'est-ce qui va plutôt se passer demain ? Qu'est-ce qui est occupé à se passer de façon peut-être un peu diffuse, de façon parfois un peu souterraine, et notamment autour de la question de la ville sensible, qui était un peu l'objet de cette invitation.
C'est le titre de ton nouveau
Alors,
livre.
C'est un livre, j'ai appris hier que l'éditeur a fini l'impression depuis hier soir, donc j'aurai à disposition dans les prochains jours. Mm-hmm. Et c'est un petit livre qui est le résultat de 15 contributeurs. Ce n'est pas que moi qui ai tenu la plume, même si j'en ai assuré la direction, et des contributeurs de Rotterdam, de Berlin, de Barcelone, de Paris, de différents endroits qui nous ont fait des interventions sur le thème comment est-ce que la ville se vit aujourd'hui et comment elle est occupée à se transformer en prenant en compte la sensibilité des gens. Mmh. La ville, ce n'est pas que de la mathématique. Des flux de circulation, autant de bagnoles, autant de métros, que sais-je encore.
Autant de nafteurs, oui.
Voilà, ou la Smart City, ça, qui nous piste partout, qui regarde nos données, qui nous les intègre et qui nous fait une matrice mathématique de ce que nous sommes. La ville sensible, c'est la voix des femmes dans la ville. C'est la voix des gens qui ont peur dans la rue. C'est les gens qui ont envie eux-mêmes de bouger et de créer des espaces publics, des plaines de jeux, des petits espaces potagers, que sais-je encore, d'initiative, comme on dit, par la base. C'est-à-dire, hein, on n'attend pas une décision du sommet, on le fait nous-mêmes, on n'attend pas. Et tout ce mouvement, hein, qui redonne sa place à la sensibilité, au sens, repose sur des valeurs. Et les valeurs, quand j'ai écouté Katia, je me dis, elles sont là. Il y a un changement de valeur qui s'est opéré, qui s'opère aujourd'hui, qui fait qu'il y a 20 ans, un jeune couple voulait avoir une bagnole, voulait avoir un travail stable, voulait avoir une maison. Et aujourd'hui, on est dans autre chose. Pas tout le monde, bien sûr, mais une grande frange des jeunes veulent autre chose. Ils ne veulent plus être propriétaires, ils veulent avoir l'usage. Ils louent un vélo ou ils louent une voiture, ils sont locataires, ils ne cherchent pas forcément à acheter. Ils sont dans des travaux. Ben moi, ce qui m'a frappé, hein, c'est, pendant la pandémie, c'est que le centre de la vie est devenu la maison, l'appartement, le logement, l'habitat, plus exactement. Avant, on était séparés, on travaillait à un endroit, on habitait à un autre, l'école se passait à un troisième endroit, on allait faire des courses encore plus loin. Ça, c'est la ville fonctionnaliste. Et aujourd'hui, avec cet accélérateur qu'est la pandémie, on est dans autre chose. Le centre du monde de chacun est devenu son habitat. Il y travaille, il y éduque ses enfants, il suit les progrès scolaires, que sais-je encore, il fait livrer, peut-être moins sympathique sur certains aspects, mais il y a un basculement qui est occupé à se faire. Et donc, quand on regarde la manière de faire des urbanistes que nous avions invités, je pense Inès Péborde, c'est un bon exemple. Voilà une franco-haïtienne qui travaille à Rotterdam, et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle ne fait pas de l'aménagement d'espace public, elle fait du ménagement thérapeutique d'espace public. C'est elle qui emploie le
thérapeutique.
Terme. Thérapeutique. Elle dit, au fond, nous, on n'a pas besoin, devant un espace vert, de toujours réimaginer un nouveau monde, de redessiner des plans et des trucs qui vont durer 5 ans, 7 ans avant que quelque chose se réalise. Faisons de la gestion de proximité basée sur les envies immédiates des gens. Alors ça veut dire, dans le parc qu'elle montrait, le parc 1953 à Rotterdam, on s'en fout, il y a des endroits où c'est humide. Et il y avait de l'humidité affleurante. Donc on ne pouvait pas l'utiliser, cette partie du parc, quand il pleuvait. Eh bien, on aménage et on met une sorte de marais et des plantes qui font que ça devient quelque chose d'agréable. Mmh. Un peu plus loin, il y avait un îlot de chaleur, c'est-à-dire une des dalles sur le sol, qui reflétait trop la chaleur et qui empêchait les gens d'aller sur les bancs. Donc on aménage, on met quelques arbres, on met quelques plantations, on met un vélum, des choses comme ça. Et donc on fait de l'aménagement de proximité, du ménagement, je dirais, on fait de la gestion. Isabelle Corten, c'est une spécialiste, une architecte de la lumière. Comment aujourd'hui, l'usage de la lumière, plutôt que les poteaux d'autoroute qu'on a le long de nos rues, peut contribuer à donner de la sensibilité à la beauté de la ville, l'espace de la ville, et en même temps donner de la sécurité, puisque c'est aussi une exigence tout à fait légitime. Mmh. Comment en Berlin, on travaille à Kreuzberg, dans le quartier un peu révolutionnaire, si on peut dire, de Berlin, c'est là où tout se passe depuis 30 ou 40 ans que je l'observe, on associe des habitants pour monter des coopératives, pour aménager des espaces qu'on gère soi-même, qu'on gère entre nous, etc. Et comment aujourd'hui la municipalité elle-même encourage cette pratique. Et donc ce sont toutes les leçons qu'on peut apprendre pour Bruxelles, pour Namur, pour d'autres villes, en Belgique, bien entendu, pour dire qu'il y a une autre manière d'appréhender la ville. Il faut faire participer, donc peut-être impliquer, j'aime pas le mot participer. Moi, je suis beaucoup occupé de participation citoyenne, mais c'est souvent, est-ce que vous êtes d'accord sur le plan ? De toute façon, il n'y a rien à changer, donc c'est assez simple. Aujourd'hui, on est dans une autre époque, on est dans l'implication. Qu'est-ce que vous voulez faire vous-même ? On peut travailler ensemble dans des alliances. Et donc, c'est ce qui se passe à Berlin, ça se passe à d'autres endroits aussi, et notamment aussi à Barcelone, puisqu'on avait là le directeur général de l'urbanisme et du développement qui est venu expliquer comment ils sont rentrés dans une logique d'une ville sans peur, qui n'a plus peur d'oser soi-même faire des choses. Et donc, c'est une toute autre manière de réfléchir la ville. Et puis, deux intervenants encore que je vais esquisser simplement, c'est de dire, évidemment, la sensibilité à la nature, elle est dans nos gènes, elle est très présente dans nos discours, mais dans nos comportements aussi. On a besoin de toucher un arbre, on a besoin de toucher, mettre les mains dans le humus, comme on dit, voilà, ou dans le cambouis, c'est pour certains, mais dans le humus en général. Eh bien, cette manière de réensauvager la ville, de rendre la ville à nouveau sauvage, c'est aussi une question de répondre à des sensibilités, des aspirations ou des valeurs, si vous voulez, qui sont extrêmement présentes aujourd'hui, qui font qu'on est sorti de l'aménagement de la ville par la planification. On fait de l'urbanisme sans plan. C'est ce qu'on appelle l'urbanisme thérapeutique, c'est ce qu'on appelle l'urbanisme tactique. On a plein de vocabulaire là autour, des pratiques. Et notamment, je pense à la rue de la Loi, l'aménagement soudain de la piste cyclable en l'espace d'un week-end.
Miracle de la rue de la Loi.
Miracle de la Loi. Oh, et ce sont des petites choses. Donc on met quelques plots, on met un pot de peinture, on peut faire mieux après, évidemment. Mais au moins, on fait basculer les usages.